J'en avais marre tous de la politique, on vous parle de Sarkozy, de machin, vous avez peur, etc. Et ben, moi, je vais chez mon copain, on ferme les rideaux, on ferme la porte, et on fait l'amour. Donc mes petits, c'est ça ce qu'il faut faire, d'accord? Comme vous voulez, par devant, par derrière, sur le côté, debout, couché, comme vous voulez, mais franchement, mais faites-le. Ça me ferait le plus grand plaisir et à vous le plus grand bien. Voilà, en plus, je suis sûre que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas fait. Alors voilà. Et voilà, donc j'aimerais vraiment que vous le fassiez, qu'on passe mon message, et comme ça, il y ait tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis, qui jouissent en même temps, le vendredi soir. Voilà. Au revoir.
Oui, bonjour. Catherine du Tarn. Je voudrais m'insurger contre le matraquage du vote dit utile qui consisterait à voter pour un autre candidat que celui avec lequel on se sent le plus en accord. C'est une démission de la conscience, une autocensure qui laisse perplexe dans un régime démocratique. C'est un demi-vote et c'est triste. La sagesse populaire dit que la peur est mauvaise conseillère. Oui, je sais bien que la sagesse du peuple n'est décidément pas une référence pour les grands partis ou les grandes coquilles de partis. En tout cas, sortons des stratégies de la peur et votons en toute quiétude, selon nos cœurs et nos consciences. C'est le seul moyen de savoir quel monde, ici et là-bas, les Français ont vraiment envie de construire. Redonnons ainsi au mot « utile » ces lettres de noblesse. À bientôt, au revoir.
Salut Daniel, Gérard de Paris. Je viens d'entendre un certain nombre d'auditeurs dire que Sarkozy est dangereux. C'est vrai, je répète ce que la gauche n'arrête pas de dire depuis bientôt 15 jours, voire plus, bientôt un mois. Mais par contre, je n'ai jamais lu dans aucun document, sauf quand tu dis que c'est Marianne qui le dit, mais Marianne, est-ce que c'est vraiment un journal ? Je n'ai jamais lu que Sarkozy était fou, qu'il avait été enfermé ou suicidaire, etc., et qu'on ne pourrait pas lui confier les rênes de la France. Par contre, j'ai lu des documents tels que ceux de Besson, qui connaissent bien Ségolène Royal, ou de Monsieur Mexando. Alors en ce moment, notre ami Ségolène essaye de se comparer son mentor François Mitterrand. C'est vrai que François Mitterrand était d'une culture gigantesque, intelligent, etc. Mais quand on lit Louis Mexando, il écrit in extenso que l'inculture de Ségolène Royal est abyssale. Abyssale, c'est quand même énorme. Or, crois-tu raisonnablement que quelqu'un d'une inculture abyssale puisse vraiment diriger la France? Je ne parle que de ça, pas du reste. Le reste, bien entendu, c'est tout à fait discutable. Mais la culture, c'est quand même important. C'est vrai, non? C'est tout ce qui reste quand il ne reste plus rien d'autre. Allez, salut Daniel. Bon courage.
Bon, merci. J'avais peur que le répondeur soit en panne. Merci de prendre mon appel. Voilà, AMG est révolté comme toujours. J'ai été complètement d'accord avec les messages d'hier. Moi aussi, je suis d'accord avec la dame qui a parlé des articles qui avaient paru pour Sarkozy sur Marianne. Je ne les ai pas lus, mais je suis complètement d'accord avec elle. Et je suis désolée, vraiment désolée, anxieuse, et j'ai peur pour l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Moi, c'est la dernière fois que je vote, parce que j'ai 86 ans, hein. Je verrai ça petit à petit, mais vraiment de les laisser dans un monde dirigé par Sarkozy, la France dirigée par Sarkozy, c'est pas possible quand même. Il faut que les jeunes, les vieux, tout le monde... c'est tout ce que je voulais vous dire, je suis vraiment révoltée et malheureuse, mais quand même j'espère quand même. Bon, merci, et puis bon courage à tous, hein, puis merci surtout pour votre émission, pour nous permettre de dire ce qu'on pense. Merci, au revoir, à bientôt.
Je souhaiterais rappeler ce que Hannah Arendt écrit dans Le système totalitaire. Jusqu'à présent, la croyance totalitaire que tout est possible semble n'avoir prouvé qu'une seule chose, à savoir que tout peut être détruit. À bon entendeur, salut.
Bonjour Daniel Mermet, Eric de Bordeaux. Je vous téléphone tout simplement parce que nous nous approchons des élections. Et c'était un petit message au nom des enseignants qui souhaitent sanctionner Ségolène Royal en votant Bayrou. Bayrou, ce n'est pas l'homme nouveau, ce n'est pas l'homme de gauche, ce n'est pas l'homme du centre. C'est un homme qui a toujours soutenu la droite, soutenu les différents gouvernements de droite. C'est l'homme de la Providence, de Giscard, c'est l'homme ami de Chirac, c'est l'homme qui a validé également le CPE. Alors, chers enseignants, chères enseignantes, avant de voter et avant de vouloir sanctionner, vous sanctionnerez vous-même avant de sanctionner Ségolène Royal. Donc ne votez pas pour cet homme qui n'est pas un homme nouveau, mais qui est un homme de droite. Merci Daniel Mermet de passer ce message. C'est plutôt important parce que si on a Pérou, Sarkozy, droite contre droite, ce sera le drame pour la France. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour, là-bas, si j'y suis. Je tenais à féliciter M. Mermet pour ses émissions. C'est le meilleur journaliste, le plus impartial du monde. C'est aussi, je crois, quand même teinté d'un peu de propagande. Un peu de propagande ne nuit pas, surtout quand c'est pour l'altermondialiste M. José Bové, qui est le spécialiste de la non-mondialisation, sauf pour le Roquefort, tiens, bizarre. Il s'énerve quand le Roquefort est taxé à 40% pour l'importation aux États-Unis. Oh, c'est un détail. C'est un détail, n'est-ce pas, M. Mermet? Bon, M. Mermet, juste un point de détail. J'aimerais qu'on repose la fabrication d'un prix Nobel de la propagande. On appellerait le prix Nobel de la propagande. Non, j'ai un autre nom. J'ai une autre idée. C'est le prix Goebbels de la propagande. Vous êtes le roi, vous êtes le premier, vous êtes vraiment le meilleur dans la propagande. Vous obtiendrez le prix Goebbels de la propagande. Un peu de fascisme chez vous, ça ne nuit pas. Le fascisme, après tout, était presque aussi méchant que le communisme.
Voilà, ça chauffe, ça fermente, ça remonte du fond de la casserole dans la boîte vocale de la basse. J'y suis. Il y en a pour tout le monde, si vous écoutez bien, et si vous nous écoutez jusqu'à 16h. On va se poser la question, dans quel pays serons-nous lundi? Pour le savoir, nous sommes allés avec toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, voir un peu à gauche, à droite, au centre, au nord, au sud, un peu partout, qui vote pour qui. On a essayé de faire le portrait, c'est pas facile évidemment, d'un certain nombre de Françaises et de Français face à cette échéance de l'élection présidentielle. Lequel enverrons-nous en finale, dimanche? À quel roi, à quelle reine donnerons-nous carte blanche pour nous diriger? Auquel allons-nous conférer nos pouvoirs? Et dimanche prochain, eh ben, on sera tous à faire plus ou moins la file dans les bureaux de vote. Et comme chaque fois, on se demandera, celui qui est devant, là, je me demande pour qui il vote. Et la petite dame qui est derrière, là, pour qui qu'elle en pince. Et l'autre, là-bas, avec sa tête de pioche. Et celui-ci, le petit jeune, et le vieux beau, et la crémière, et l'infirmière, et le précaire, et l'intérimaire. Pour qui vote-t-il? Parce que l'intérimaire ne vote pas forcément comme on suppose que vote un intérimaire, ni une crémière, ni une infirmière. Parce que c'est ça qui nous a intéressé, figurez-vous, et des Landes à Marignane, d'Amiens jusqu'à où vous voudrez en France, on est allé un peu partout voir un peu ce que sera notre avenir aussi dans 5 ans. Et oui, dans 5 ans, que se sera-t-il passé? C'est une question que nous avons posée. Voilà un portrait aujourd'hui dans la basse, j'y suis, de cette France à la veille de l'échéance. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la fameuse boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bon, alors je sais bien que ce sont pas les mêmes qui vont descendre dans la rue entre les deux tours et ceux qui vont voter Sarkozy au premier tour, certes. Mais ce qui est terrible, c'est de penser que le système est verrouillé. Donc il n'est plus représentatif s'il est verrouillé. C'est-à-dire ceux qui ont une autre voix à faire entendre, ils peuvent pas la faire entendre dans l'élection présidentielle, parce que déjà on les persuade que c'est pas possible, quoi, que de toute façon leurs candidats arriveront pas au second tour. Et c'est ça qui va pas du tout. Ça va déboucher sur la violence. Et cette violence, je le répète, c'est l'institution qui la suscite. L'institution, quand elle n'est pas juste, quand elle n'est pas représentative. Bon, il faut le dire, je ne sais pas, sous toutes les formes. Et puis, ça passe pas, quoi.
Bonjour, émission Là-bas si j'y suis. Je m'appelle Francis, je suis de Toulouse. J'écoute toujours votre émission sur la route et il y a un truc qui me choque beaucoup. J'entendais là il y a 25 ans que la tendance s'inverse et que les grands patrons prennent de plus en plus d'argent. Mais qui est arrivé au pouvoir il y a 25 ans, démarrait les années Mitterrand? N'oublions pas que c'est bien sous Mitterrand que son premier ministre, qui est actuellement à Lille, lui peut-être a-t-il un parachute doré aussi, a désolidarisé les salaires du coût de la vie et de l'inflation. Alors, bon, je suis pas anti-socialiste, il y a des bonnes choses dans le socialisme, il y a des bonnes choses partout, mais j'aimerais qu'on mette des noms, tout simplement, sur ceux qui ont fait que c'est permis maintenant. Parce que quand même, quand Mitterrand est arrivé, eh ben, il nous a bien niqué, le salaud. Hein. Au revoir.
Oui, bonjour, Daniel. Je viens d'écouter ton émission sur les salaires des PDG. Magnifique. Et je me demandais si, comme la génétique a fait des grands progrès ces derniers temps, et que M. Sarkozy nous le fait savoir, est-ce qu'on a fait une étude sérieuse sur le gène de la cupidité? C'est vrai, ça manque, ça. On a le gène de tout, mais pas celui-là. Voilà. Allez, continuez, vous êtes formidable. Salut.
Oui, bonjour Daniel. Je viens suite à la mémé là, qui était en colère contre Sarko, à qui on lui faisait toutes les misères du monde. Pauvre monde d'aujourd'hui. Enfin bref, pour moi, dimanche prochain, je vais jouer. Ça va être un genre de tiercé. Comme mon portefeuille reste en fin de mois. C'est-à-dire pas grand-chose dedans. Allez, salut.
Ça fait deux, trois fois qu'en écoutant les émissions sur ces sujets-là, je me pose une question. Je ne veux pas être le seul, mais quand on entend tout ça, que l'autre, il gagne 325 000 SMIC, machin, bon, depuis, c'est comme s'il avait bossé depuis Clovis, et que pendant ce temps-là, les caissières, etc., bon. On se pose vraiment, moi, je me la pose la question. Est-ce qu'on est trop civilisé pour se révolter? Est-ce qu'on est trop résigné pour se révolter? Jusqu'où on va se la prendre, la pilule amère? On attend quoi? Que les gens, effectivement, se révoltent lâchement, comme ils avaient fait le 21 avril 2002, en se trompant de vote, d'ailleurs? Parce que moi, bon, peut-être que ce message passera pas, parce que c'est un appel au vote, mais ceux qui triment et qui en ont marre, s'ils veulent faire flipper le patronat, c'est pas Le Pen qu'il faut voter, hein. C'est... il faudrait qu'il y ait un des candidats dit anti-libéral fasse un énorme score, du genre 10-15%. Ça les ferait flipper, le patronat.
Voilà, je suis sur la route, je suis un chef d'entreprise, je suis un militant, président d'ACEDIC, président de mutuelle. Bref, pas vraiment le profil d'un facho ni d'un hyper profiteur. Je viens d'écouter pendant une heure, là je suis sur la route en rentrant d'une réunion, l'émission. C'est affligeant et de penser que mes impôts servent en partie à financer une telle radio avec un animateur qui tient de tels propos, avec une complicité absurde, déplacée et ridicule avec ses invités. Franchement, ça fait beaucoup de peine et c'est pas avec ça que la France va se relever. Franchement, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle totale, d'un sectarisme absolu. Vraiment, je sais pas à quoi... Je suis toujours intéressé pour savoir à quoi peuvent ressembler les gens qui tiennent de tels propos. C'est dommage que ce soit pas à la télé, j'aurais l'image. Mais vraiment, honte à vous. Et Dieu merci, c'est complètement par hasard que j'ai tombé sur votre radio. J'ai bien relevé, je vais pas y retourner. Vous êtes vraiment pitoyable. On va s'en sortir un jour, j'espère. Mais pas grâce à vous.
Oui, bonjour, c'est Jean-Claude Amara, le porte-parole de l'association Droit Devant, qui s'adresse aux auditeurs fidèles de Là-bas si j'y suis, pour leur dire que demain, samedi à 17h, veille de ce premier tour des élections présidentielles, des centaines de sans-papiers et leur soutien iront prendre la Bastille.
16. Le 22 avril, voter utile. Fini le vote sanction, fini le vote démocrate. Ne votez pas avec votre esprit, ils s'en foutent. Ne votez pas avec vos souffrances, ils s'en balancent. Votez utile, comme l'est le sac plastique pour vos courses chez Leclerc. Votez utile, par pitié, votez utile. Qu'ils arrêtent de vendre des aspirateurs à 20h à tous nous consommateurs. Oh, par pitié, qu'ils nous laissent dormir pendant 5 ans. Votez utile, par pitié. Romuald, du 72.
Oui, bonjour, Jean-Pierre de l'Aveyron. Moi, je voudrais dire une petite citation pour tous ceux et celles qui, par peur, sont prêts à renier dans l'urne leurs convictions antilibérales. C'est une petite phrase de Stendhal, et voilà ce que ça dit. Les peuples n'ont jamais que le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur. Salut.
Depuis 2002, il y a eu quand même la glace qui s'est brisée un petit peu. J'espère qu'elle va continuer à fondre et qu'on va remporter une victoire et que les idées du Front National vont progresser et qu'elles seront mieux présentées. Ça, c'est important.
Moi, j'ai toujours été attiré par les femmes. Vous voyez la droite mettre une femme ? Je ne suis pas sûr qu'il y mette une femme, la droite. Jamais. C'est quoi la droite maintenant ? C'est ça qu'il faut me dire. C'est quoi la droite ?
Sarko, anti-Sarko, moi.
Et tous les changements qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui, ça a été la gauche qui les a créés. Il y a la cinquième semaine, congé payé, 35 heures.
Et qui sont ces gens qui manifestent ? Je vais vous dire, c'est l'extrême gauche. Ce sont des gens dangereux. Pas nous, c'est pas nous qui sommes dangereux. Nous respectons la démocratie. Tandis que eux, ces gens-là, ces extrêmes gauches, hein, ou ces gens de gauche, hein, enfin surtout les extrêmes gauches, c'est eux qui sont dangereux. C'est eux les fascistes.
Vous savez très bien que la politique, c'est un sujet qui fâche. Donc vous voulez en parler
On va mettre. C'est pas une raison. Attends.
Moi, je n'ai rien à voir avec vous. Vous touchez une de mes affiches, je vous recouvre entièrement.
Mais c'est quoi une...
Et vous avez été prévenu. Hein. Moi, je te les recouvre entièrement. Je t'en laisserai pas une. Hein. T'en touches une. Une seule. Je te les recouvre tous. C'est le tarif.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Pascal Pascariello, Antoine Chao, Olivia Gesbert, François Ruffin et Anne Rioux, dans quel pays vivrons-nous lundi ?
Flight number 2, arriving from...
Alors,
on se trouve ici au centre parisien de parapsychologie. Vous avez un grand bureau.
Oui.
Derrière vous, il y a un sphinx.
Oui, c'est l'Égypte. Hein.
Devant vous, vous avez un jeu de tarot.
Alors, j'ai plusieurs jeux. J'ai effectivement le jeu du tarot de Marseille. Bon, il y a l'oracle Béline que j'utilise moi. Et un pendule.
Comment vous faites ?
Alors, je tiens les cartes.
Hein, par exemple, si on, voilà, vous pensez très fort à Nicolas Sarkozy.
Voilà.
Pensez très fort à Nicolas Sarkozy.
Je pense à Nicolas. Je vais donc mélanger le jeu, le tarot de Marseille. Je coupe. Je regarde la coupe. Alors, le despotisme concerne une personne, ben, c'est M. Sarkozy qui est... Hein, c'est moi qui domine, c'est moi qui commande, c'est moi qui dis. Hein.
Là, vous venez de tirer une carte au hasard, c'est le despotisme.
Oui, tout à fait. Le despotisme. Quelqu'un qui s'enchaîne lui-même, en fait, parce qu'il est trop... il n'est pas tolérant du tout. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Donc cette carte-là, le pendu indique une période de blocage. Ensuite, vous avez le 13 qui indique un revirement de situation, la fin d'un cycle.
Le 13, là, c'est la mort.
C'est la mort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il fasse le ménage autour de lui. Alors, il y a également la papesse qui indique que M. Sarkozy est très proche de sa maman et qu'elle lui donne beaucoup de conseils. C'est elle la personne, l'éminence grise.
On pensait que c'était Cécilia, mais c'est sa mère, vous
dites. C'est pas du tout Cécilia. Cécilia, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire. Elle l'a soutenue pendant quelques temps. Maintenant, c'est quelque chose qui l'intéresse absolument plus du tout. Et celle-ci, c'est qu'il est... il faut qu'il quitte, il faut vraiment qu'il laisse tomber, peut-être à la limite, ou qu'il passe à l'opposition. Pourquoi pas, tout est possible.
Parce que là carrément... Là, c'est marqué le mat.
Le mat.
Et c'est un vagabond qui porte son baluchon.
Bah, c'est quelqu'un qui quitte, qui laisse tomber.
Vous dites, en tirant cette carte, que Nicolas Sarkozy va prendre son baluchon et partir.
Moi, je le vois pas au gouvernement, Nicolas. Hein, ça, c'est clair. Hein. Ah non. Non.
Alors, vous savez, le problème, c'est souvent quand on perd son travail, derrière, il y a la femme qui part aussi. Est-ce que vous pouvez tirer le tarot d'amour de Nicolas Sarkozy?
D'accord. Alors, on va regarder ça. Alors, Nicolas, par rapport à Cécilia. De toute façon, dans l'absolu, si vous voulez, le couple est antinomique, également d'un point de vue astrologique. Il est Verseau, Monsieur Sarkozy. Donc, en astrologie, c'est quelqu'un qui est hyper indépendant, c'est quelqu'un qui a des petits grains de folie, c'est quelqu'un, de toute façon, qui n'est jamais content de rien, qui est hyper exigeant. Et de toute façon, ça va jamais. Donc, faut vraiment le suivre. Faut vraiment s'accrocher.
Vous n'aimeriez pas être à la place de Cécilia?
Non. Pas du tout. Ah non.
Même première dame de France, vous ne verriez pas première dame de France?
Pourquoi pas? Tout est possible. Et alors, cette carte-là, je vous assure, à chaque fois qu'elle sort, celle-ci, bon, par rapport à ce que je ressens également, la séparation, elle a déjà eu lieu.
Ça, c'est l'étoile.
C'est l'étoile. Et l'étoile indique la séparation et quelque chose de froid, quelque chose de dur, quelque chose de glacé entre eux.
Alors, s'il perd son travail et sa femme, comment il va faire pour rebondir?
Je vais vous dire honnêtement, par rapport à sa date de naissance et son thème astral, il en a pour 8 ans de galère.
Mais vous n'utilisez jamais le pendule, en fait?
Ah si, 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 on l'utilise. Donc voilà, donc le pendule, c'est très simple, c'est de la radiesthésie. Donc, s'il répond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est non. Si c'est oui, c'est de l'autre côté. S'il bouge pas du tout, c'est qu'il a pas envie de répondre. Et s'il oscille d'avant en arrière, ça veut dire qu'on a mal formulé la question.
Alors, c'est moi qui pose des questions ou c'est vous?
C'est comme vous voulez.
J'aime bien poser des questions, c'est mon métier.
Ah oui? Oui, alors allez-y.
Alors, est-ce que Ségolène Royal sera au second tour?
Eh bien, le pendule nous répond non.
Ça tourne dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre pour dire non.
Est-ce que François Bayrou sera au second tour?
Ah, écoutez, le pendule ne répond que oui. Et même de façon très significative, très positive.
Est-ce que Nicolas Sarkozy sera au second tour?
Il n'apparaît pas au second tour.
Le pendule la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ce qui signifie que c'est négatif.
Ah, donc, il en faut quand même deux au second tour. On va essayer le dernier, alors.
Alors, allez-y, oui.
Est-ce que Jean-Marie Le Pen sera au second tour?
Là, le pendule continue. Donc là, reposons la question, parce que là, il y a une possibilité.
Parce qu'il oscille un peu de l'avant vers l'arrière. Là,
il nous a dit oui dans un premier temps. Ensuite, il oscille d'avant en arrière. Donc, il faut reformuler la question d'une autre façon.
Est-ce que Jean-Marie Le Pen va rééditer son exploit du 21 avril 2002?
Alors non. On nous dit non.
Et donc c'est qui? C'est Arlette Laguiller? C'est Gérard Chivardi? C'est José Bové qui vont se...
Gérard Chivardi, je ne sais pas. José Bové, par contre, José Bové, il y a quelque chose pour lui.
José Bové au second tour?
Le pendule dit oui.
Là, vous me surprenez.
Oui, moi aussi, je me surprends moi-même.
Donc les cartes comme le pendule répondent Bayrou?
Absolument. Ah oui, absolument.
Donc, si c'est si verrouillé pas au deuxième tour, on vient vous voir lundi, puis on en discute.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
Bon, écoutez, on repasse lundi, alors.
Oui. Je n'attends.
Voilà, il n'y a pas que les sondages, il y a aussi Maria Aguilera, la voyante, qui, vous avez bien entendu, les prévisions, c'est Bayrou, Bové, qui apparaîtront donc dimanche soir sur nos écrans et concourront pour la finale. D'après Maria Aguilera. Voyons un peu qui vote pour qui. Une série donc de portraits. On va commencer par Ziad. Ziad de Pascal Pascariello l'a rencontré à PSA Citroën à Aulnay-sous-Bois lors d'une grève récente. Qui vote pour qui?
Moi, je vote à celui qui augmente les salaires, à celui qui voit les conditions de travail. Je vote à celui qui dit à la retraite à 55 ans. Je vote celui qui augmente le niveau de vie de la France. Je vote pour les gens qui crient les emplois. Je vote pas pour les gens qui parlent toute la journée, du matin au soir, du sécurité, sécurité, sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est du travail.
Ça fait combien de temps que vous bossez à PSA?
Ça fait 6 ans que je suis là. Je suis 6 ans, j'ai jamais augmenté un centime. C'est le même salaire. Il y a que les patrons qui augmentent, qui évoluent. Nous, avec des diplômes, ils disent qu'il n'y a pas de place. Pour les autres, il y a de la place. C'est tellement la discrimination.
Votre prénom?
Zied.
Vous habitez où?
À 77 mots. Et chaque mois, j'ai 200 euros de gasoil pour venir ici travailler. Si je touche 1200 euros, en fait, c'est comme je touche 1000 euros. C'est manque de respect ici. C'est pas la loi de la France. C'est pas la France ici. On parle de la démocratie, là. La France, là, dans le monde entier, démocratie, démocratie. Mais où, là, regardez votre propre pays, la misère. C'est hors de question qu'on vive avec un salaire de 1200 euros, qu'on paye de loyer de 650 euros. On a un crédit de voiture de 300 euros. Avec l'eau, avec l'électricité, on se retrouve au découvert. C'est hors de question. C'est nous, le travailleur, qu'on travaille le travail le plus pénible. On est le mal payé et le maltraité. C'est insupportable de vivre avec un tel salaire en France. C'est honteux. Monsieur Sarkozy, il dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Bon, en principe, c'est bien. Mais qu'il vienne lui-même à Citroën et laisser travailler à la chaîne. Moi, je veux 7 heures à la chaîne, je rentre chez moi. Mes enfants, je veux jouer avec moi, je n'ai même pas la force de les porter. C'est moi, ma vie, je travaille à la chaîne, je rentre, je dors, je me lève, je mange, je regarde 5 minutes la télé, je m'endorme, le matin, je lève. Et c'est ainsi. On travaille, excusez-moi pour le terme, comme des chiens, on est maltraités, mal pillés, on n'aille jamais au cinéma. On n'aille jamais au théâtre, ma femme n'aille pas au coiffeur, on mange le minimum, le truc pourri. Avant, on prend des crédits pour aller en vacances, maintenant on prend les crédits pour manger. C'est la honte, c'est honteux, franchement, c'est honteux pour un tel pays comme la France, si on vit des misérables. On veut avoir une vie correcte comme tout le monde, on veut qu'on ait des travailleurs, qu'on puisse aller en vacances. Moi, je veux que mes enfants, ils ont de bonnes études, je veux pas qu'ils fassent la même chose que nous. Je veux mes enfants qui sont cultivés et cultivés, je voudrais bien les ramener au musée. Là, ça fait 5 ans, mes enfants sont même pas partis en vacances. Même avec les aides que nous propose le CAF ou je sais pas quoi, on n'a pas les moyens même d'y aller.
Ça fait 18 ans que vous êtes en France?
Ça fait 18 ans. Moi, l'identité de la France, tout ça, franchement, c'est que la France existe depuis des années. Moi, je trouve que la France, elle était construite par, avec les étrangers. Par exemple, ici à Citroën, c'est le travail le plus dur. Si vous voyez sur les chaînes, 99% qui travaillent ici, c'est des étrangers. Les Français ne veulent pas travailler ici parce que c'est un travail trop dur. Dans les bâtiments, vous trouvez que les Portugais, que les Arabes, ils sont les Français. Les Français, je trouve, excusez-moi, qui est dans les bureaux. La France sans les étrangers, elle déroulera pas. C'est qui fait fonctionner le commerce de la France? On parle la vérité. C'est nous, le Maghrébin, c'est nous, les Noirs, c'est nous ça qu'on achète ça, on fait ça, c'est des milliards et des milliards. C'est nous qu'on fait bouger. Ce que bougeait la France, c'est la vérité. Et maintenant, on parle d'identité de la France. Quelle identité? La France, c'est pour tous les Français. On est tous maintenant Français. Moi, personnellement, je suis Français maintenant. J'ai nationalité française. Mes enfants sont Français. Alors, il faut qu'on travaille tous. On trouve une solution pour tous. Au niveau de l'immigration, je sais pas quoi. On essaye de fermer maintenant, c'est vrai. On essaye de régaliser tout le monde ici. Par hors de question que des gens qui n'ont pas de papier ici en France, leurs enfants ils vont à l'école, après ils vont les jeter. Ça, c'est pas normal. Il faut régaliser tout le monde et en faire. Moi, j'étais un vagabond comme certains messieurs qui disent, qui traitent les gens comme des animaux, on dit les racailles. Moi, comme lui, il dit, moi, j'étais racaille. C'est vrai, j'étais un racaille. Mais depuis que j'ai un emploi, je suis plus un racaille parce que j'ai plus besoin de voler, j'ai plus besoin de braquer, j'ai plus besoin de faire n'importe quoi parce que j'ai un salaire. Si je, depuis là, ça fait des années que je travaille, j'ai jamais volé. J'ai volé une seule fois là, à la cantine parce que mon patron nous a pas payé parce qu'on n'a rien à manger. Mais depuis que je travaille, j'ai jamais volé même un truc. Et malgré ma jeunesse ici en France, j'étais obligé de payer, de voler parce que mon père, chaque fois, je lui demande de m'acheter un truc, il n'a pas le moyen. Pour moi, la sécurité, c'est l'emploi. Créer des emplois à tout le monde, il n'y aura plus de racailles en France.
Qui vote pour qu'il y ait une suite de croquis et d'esquisses dans la basse j'y suis, d'une de Françaises et de Français qui vont voter dimanche. Alors, Ziad, il nous a pas dit précisément pour qui il va voter. En tout cas, ce qu'on va voir, c'est le fossé entre Aulnay-sous-Bois et Neuilly, où nous rencontrons Alice, 72 ans.
Vous savez, je ne suis pas le péniste, hein, ne croyez surtout pas ça. Hein.
Vous n'êtes pas le péniste, alors vous allez voter pour qui? Pour Sarkozy?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, il cherchera à faire bien. Moi, je le trouve que c'est un homme très intelligent. De la façon qu'il discute, parle à la population. Il est plein de bonnes idées et je pense qu'il est sincère. Je sais un homme sincère. Vous savez, j'ai été élevé en Alsace. Nous sommes des gens qui aimons les choses...
Bien droite.
Bien droite.
Parce que vous me faites le signe avec la main.
Voilà, exactement, bien droite, avec le respect de soi-même et le respect pour les autres, vous voyez.
Alice, vous avez quel âge, si c'est pas indiscret?
72 ans.
72 ans.
J'ai travaillé dans le commerce.
Et la retraite, comment ça se passe?
Ça va, oui. C'est-à-dire, je me sens un peu seule parce que j'ai perdu mon mari. Et puis finalement, ça va, oui. Je ne me plains pas trop.
Et vous avez une retraite de combien?
Ça, je ne le dirai pas. Mon mari travaille à la bourse. On est un pays de liberté. Les gens, les ouvriers qui veulent acheter une maison, il faut qu'ils travaillent pour avoir cette maison. Bon, Ségolène Royal, elle est pas mal quand même, vous savez, mais elle veut absolument qu'on travaille 35 heures. Mais pourquoi? Pourquoi empêcher les gens de travailler? Il faut la liberté. Ceux qui veulent gagner des sous, eh bien, allez-y, travaillez. Il faut pas être feignant. Eh bien, bien sûr, allez-y, travaillez. Je ne suis pas spécialement raciste, non, pas du tout. Il faudrait surtout, moi je dirais, que tous les pays, les dirigeants de tous les pays s'unissent et qu'ils s'occupent un petit peu des dirigeants de ces pays qui laissent partir leurs gens et qui ne font rien pour leur population. C'est de là que vient tout le mal, vous voyez. C'est ça qu'il faut arranger en premier. Et quand les gens seront mieux chez eux, eh bien ils ne voudront plus venir ailleurs. Par contre, ceux qui sont là et qui ont pris goût à la liberté comme la France, ceux-là, ils ne voudront plus partir. Ceux qui viennent pour foutre la merde, excusez-moi, et les papiers, nationaliser tous les sans-papiers, ce n'est pas possible. Pour moi, non. Parce que ce sont des gens qui voudront jamais vraiment travailler. Parce qu'une personne qui est apte à brûler des voitures comme ça pour un bruit porno, elle ne peut jamais avoir un bon fond. Ce n'est pas possible.
Vous savez, ils sont français.
Il y a des Français qui sont là-dedans. Mais au départ, d'où ça vient tout ça? Ça vient des parents et ça part des fois de plusieurs générations. En plus de ça, les étrangers, les immigrés, ce sont des gens qui ont déjà d'autres coutumes que nous. Ils viennent ici. On va leur construire des milliers de logements, mais allez les surveiller dans 2 ans, 3 ans. Ça sera inhabitable. Parce que ces gens-là ne sont pas, ils n'ont pas appris l'hygiène. Je dirais que ça ne lui plaît pas.
Est-ce qu'il y a une dame qui est passée à côté de nous? Après qu'elle a entendu ce que vous avez dit et ça ne lui a pas plu?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils disent ce que je ressens dans mon âme et dans mon cœur.
Voilà une électrice parmi d'autres de Nicolas Sarkozy. On va aller à Marignane maintenant, où on rencontre Pierre. Pierre, il a 52 ans, il est prof dans un lycée professionnel, avant il était électricien, et Pascal Pascariello a imaginé un scénario. On est en 2012, imaginons que l'on soit en 2012. Que se passerait-il si celui ou celle pour qui vous allez voter ce dimanche, eh bien, était au pouvoir? Que se serait-il passé?
On est en 2012 et votre candidate a été élue. Et oui, pendant 5 ans, on a eu Marie-Georges Buffet.
Eh bien, il n'y a plus de chômage en France. Il reste 400 000 chômeurs pour lesquels on va lancer un dernier plan. Pourquoi? Parce qu'au niveau européen, on a lancé une croisade contre le chômage. On a donné des moyens pour faire des investissements productifs importants et que la France a été le cheval de trait, disons, de cette bataille et qu'aujourd'hui, l'Europe, la France en particulier, sont montrées dans le monde comme les leaders. Quand on va chez mon voisin, je m'aperçois que il a du solaire combiné avec de l'énergie. Vous voyez, je vois mon petit côté électricien là. Et je me dis, bah tiens, c'est bien qu'on a taxé certains profits pour développer des nouvelles énergies qui ont créé des millions d'emplois. Et puis tiens, les vieux, ils sont plus dans des maisons de vieux parce qu'il y a des jeunes mobiles qui se déplacent, qui les amènent au théâtre, parce qu'on a construit des théâtres.
On l'a souvent vu en maillot au bord de la plage, moi j'ai vu dans les photos à l'étranger.
Ah oh, ben qu'est-ce que vous voulez, tout le monde s'est enrichi, il a pu s'enrichir un peu elle aussi.
Donc ça y est, on commence à passer du communisme à quoi?
On commence à vivre bien, vous savez, communisme, si c'est vrai que souvent on a eu l'idée dans le siècle dernier que c'était synonyme de misère, de difficulté, etc., ou de progrès, parce que ça a mené aussi quelques progrès à cette époque-là. Je crois que maintenant on en est sorti, c'est le nouveau communisme qui est sorti là, hein? C'est celui du troisième millénaire, le vrai, celui que Marx disait, la dictature du prolétariat. Ben voilà, vous voyez, il n'y a plus de patron. On a prouvé pendant ces 5 dernières années qu'on pouvait vivre sans eux. Et voyez, regardez, les gens sont pas malheureux. Vous le constatez, c'est ça. C'est le constat que j'ai fait.
Alors, on rêve avec ce professeur de ce lycée professionnel de Marignane. Et non loin de là... Voilà deux jeunes gens qui, eux, sont, disons, beaucoup plus terre-à-terre.
T'as déjà une idée pour qui tu vas voter?
Moi, je sais. Depuis longtemps. Oui, mais je vais pas le dire.
Pourquoi? Tu peux pas le dire?
Personnel.
Parce qu'il a honte. Parce que comme il est pour le FN, il a honte. Quoi. C'est pas que c'est honteux, mais comme tout le monde dit que les gens qui votent pour le FN, c'est raciste, c'est ci, c'est ça, pour moi, c'est pas une honte. Quoi. C'est faut respecter un peu tout le monde et tout. Mais...
Si Le Pen était passé en 2005, en 2012... Votre France, à vous, elle est comment?
Elle est déjà moins d'immigrés, déjà. Elle est déjà ferme, les frontières, déjà. Les sans-papiers dehors, plus de travail. Et les salaires augmentés, aussi. Voilà, c'est les principaux trucs, quoi.
Vous avez quel âge?
18 ans.
Et vous allez voter, ça?
Ouais, la première fois. C'est important. Ça, j'ai bien réfléchi, donc c'est pour qui je vais voter. Et après, Jean-Marie Le Pen, moi, direct. Parce que déjà, il y a trop d'immigrés en France, moi, je trouve. Moi, mes parents, ils se sont débrouillés pour travailler, pour avoir une bonne situation. Bon, ils ont peut-être pas un haut diplôme, mais mon père, il a un bon travail et tout, il gagne bien. Moi, ma mère, elle est à la maison, elle travaille pas. Et mon père, il est cadre. Donc, j'ai une bonne situation familiale, quoi. Moi, mes parents, ils se sont démerdés, ils se sont... Alors que les étrangers qui viennent, quoi, ils ont directement des logements, hein. Alors qu'ils sont même pas français. Moi, je veux faire gendarme. Moi, je préfère mieux bouger, rouler, arrêter des gens, faire mettre un peu l'ordre, quoi. C'est...
Est-ce que ça va mieux depuis qu'il y a le FN à Marignane, vous pensez?
Moi, je suis pas d'ici, donc après...
C'est d'où?
Moi, je suis dans le sud, à la Rodonne, sur la côte. Il y a moins de 10 000 FN d'Arabes, quoi. Il y a moins d'Arabes sur la côte, quoi.
Et votre famille, vos parents, ils votent aussi FN?
Ça, je dirais pas, par contre.
Ou en famille, vous en parlez?
En famille, ouais, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, ouais.
Qui vote pour qui? On continue avec Yves. Yves, on l'a rencontré à Paris, dans le 13e, il a la trentaine. Il s'occupe, il dirige une petite boîte de prod, de films, très parisien donc, le pauvre bien riche. Et là on imagine avec Yves, on retourne à la science-fiction, on est en 2012 et le candidat pour qui Yves va voter dimanche a été élu. Et que s'est-il passé entre 2005 et 2012?
Si Olivier Besancenot est élu, il a été élu. Que s'est-il passé ces 5 dernières années, Yves?
Bah, ces 5 dernières années, il s'est passé un mouvement d'ensemble des salariés, des chômeurs, pour arriver à véritablement mieux répartir les richesses, soutenu par des choix politiques imposés par un parlement démocratiquement élu à la proportionnelle intégrale, avec finalement la prise en charge de la politique par l'ensemble des citoyens. Que ce soit au niveau d'une société, au niveau de la France ou au niveau international, les luttes, ça se mène pas tout seul. Donc déjà en France, Olivier Besancenot, il a pas gouverné tout seul avec que la LCR, avec des gens du PC, et avec des gens des Verts, et avec des gens de lutte ouvrière, ou des gens qui sont dans les comités Beauvais ou dans les collectifs anti-libéraux. Et au niveau international, pareil, les combats, ils se mènent collectivement.
Et qu'a-t-il fait alors, son bilan au niveau international?
Eh ben, son bilan international, c'est par exemple la réforme complète, la refonte de l'ONU, la fin du soutien notamment de l'Europe, qui a changé entre-temps avec une nouvelle constitution plus démocratique et pas libérale, la fin du soutien de l'Europe aux dictatures africaines, une vraie répartition des richesses là aussi au niveau international, donc avec la fin de l'exploitation des richesses naturelles, du pétrole, etc., dans les pays du Sud, dans les pays du tiers-monde. Total n'est plus le principal exploitant, le principal patron finalement des pays d'Amérique du Sud, Total, Elf ou même France Télécom. Les pays qui possèdent ces richesses du sol s'en servent, répartissent l'argent ensuite à l'ensemble de leur population. Bah, c'est ce qui a été fait en Bolivie, au Venezuela, en France et un peu partout, chacun à sa manière parce qu'il n'y a pas un seul modèle unique.
Et vous gagnez maintenant combien, Yves? Nous qui on s'était vu il y a déjà 6 ans de ça, est-ce que votre salaire a augmenté?
Mon salaire a augmenté. Alors en plus maintenant je suis marié et j'ai des enfants, donc forcément ça tombe bien.
Vous gagnez combien?
Il n'y a plus d'euros. Donc maintenant c'est le Zorglub.
Donc en Zorglub, on va essayer de faire une conversion. L'équivalent en euros, ça ferait combien?
L'équivalent en euros, c'est en tout cas ce qui me permettrait de me loger, de manger correctement, d'avoir des loisirs, de sortir, de voir les gens que j'ai envie de voir, de partir en vacances de temps en temps. C'est-à-dire 2000 et quelques euros, oui. Mais comme il n'y a plus de toute façon aucun revenu en dessous de 1500 euros, y compris les pensions de retraite, y compris les allocations handicapées, et que les prix, eux, n'ont pas été augmentés, que le coût de la vie est resté maintenu, tout le monde peut vivre, avoir accès finalement à tout ce dont il a besoin. Le logement, les transports, l'eau, l'électricité, le chauffage, l'accès à la culture. Les grands patrons, soit ils se sont mis au travail, soit ils ont décidé d'aller faire autre chose, de changer de vie. Comme ils ont de l'argent, eux déjà à la base, rien ne les empêche de faire autre chose. Mais en tout cas, sur le contrôle de la société, ce qui s'est passé, c'est que c'est ceux qui créent les richesses qui en profitent.
Qui vote pour qui serait élu par qui? On continue cette série de portraits, d'esquisses et de croquis. On est à Paris, toujours, marché d'Aligre dans le 11e arrondissement, où Olivia Gesbert rencontre Axel, marchand de livres un peu spéciaux.
En fait, Axel, vous êtes le seul bouquiniste du marché d'Aligre. Et alors dis-moi, toi, tu as voté pour qui?
Ça, c'est une chienne qui est paléo-anthropologue. Alors elle votera pour les plus beaux os.
Elle n'a pas trouvé un os dans cette campagne présidentielle?
Elle en a trouvé plein. C'est pour ça qu'elle agite la queue tout le temps. Elle est vraiment très contente. Elle est tellement, tellement hilarante, cette campagne présidentielle, tellement surréaliste au sens littéral du terme. Parce que d'abord, c'est une campagne qui est formatée par les médias. Qu'on a une espèce de bonapartiste agité à droite qui fait appel à Jaurès et à Blum, ce qui est quand même surréaliste. Qu'on a à gauche un parti socialiste dont le plus extrémiste est Laurent Fabius. Maintenant, Le Pen, grâce à Sarkozy, apparaît presque comme un bon père de famille, sain et presque généreux. C'est hallucinant. Cette élection est hallucinante. Le moins pire qui, normalement, devrait n'être que le moins pire, etc., est tellement mis en valeur par l'invraisemblance des deux autres. Et Bayrou, c'est sûrement pas Ségolène.
François Bayrou est élu président demain. Avec qui il va gouverner? Ça, c'est quand même un grand mystère aujourd'hui.
Non, c'est pas un grand mystère. Il va gouverner avec des gens compétents, efficaces, qui se situent aussi bien à droite qu'à gauche. Il y a actuellement des gens qui sont endoctrinés dans des partis qui sont à l'UMP. Il y a des gens qui sont au Parti Socialiste, qui sont complètement ligotés par la doctrine, par la dogma, etc. Et qui valent mieux que ce qu'ils sont. Il faut les bouger. Place au monde réel, les carchériser. Il faut les rendre regardables.
2012, ça y est, c'est la fin du quinquennat de François Bayrou. Qu'est-ce qui a changé en France?
Je suis pas astrologue. Ce que j'espère, la possibilité d'une vie décente par son travail. Il y a des tas de gens actuellement qui travaillent, qui ont un métier, qui jouent le jeu de la société, qui payent leurs impôts, etc., et qui n'ont pas une vie décente. Quand on voit qu'un smigard actuellement en région parisienne touche un gros millier d'euros, mais qu'est-ce que ça a de très très différent des meilleures périodes de l'esclavagisme où quand on avait un bon maître, les gens étaient convenablement nourris, convenablement logés. Qu'est-ce que quelqu'un avec 1000 euros peut faire de plus que de se nourrir convenablement et de se loger très difficilement, la plupart du temps de manière indécente? Les socialistes sont ceux qui ont quand même, juste les 20-30 dernières années, privilégié la finance et les valeurs boursières au détriment des valeurs du travail et de l'industrie. Donc on a tout paumé en fait. Pendant fort longtemps, j'ai voté PS. Là, franchement, c'est terminé. Je souhaite même que ce que l'on connaît actuellement, cette espèce de bipartisme explose, et je pense effectivement que Bayrou est l'un des seuls à pouvoir faire cela. Alors que les autres, de gauche ou de droite, ne cherchent qu'à préserver leur système et leur manière de fonctionner, qui n'est plus adapté à la société, qui n'est plus adapté au monde actuel. De crédible, il n'y a guère que Bayrou.
Donc il y a des vieux livres érotiques aussi.
C'est un des grands classiques, c'est Les filles de Lot par Vidame de Bozegui.
Et François Bayrou, il aimerait ce livre ?
J'en sais rien, pourquoi pas. Il n'a pas l'air sot, mais j'imagine que Ségolène, j'aimerais beaucoup l'avoir feuilleté ce livre avec ses petites jupettes plissées, ça serait vraiment délicieux, je fais la photo. Enfin, vraiment, ça me plairait beaucoup.
Et alors le gouverneur polygame ?
Le gouverneur polygame, ça va sûrement concerner notre ami Sarko, parce que j'ai cru comprendre que la petite Cécilia avait encore fait des siennes, enfin bon...
Alors on continue notre galerie de portraits des lecteurs qui votent pour qui. Là, on va à Aix-en-Provence avec Pascal Pascariello et on rencontre Xavier Domenac. Il a une quarantaine, il est à la tête d'une entreprise de location de voitures. Il est associé à son frère et il emploie, il a à peu près 70 salariés. Xavier Domenac.
Admettons que le candidat pour lequel vous avez voté, Nicolas Sarkozy, est passé. Donc là, on est 5 ans après. C'est pas du tout ce qui s'est passé en France pendant 5 ans.
On va dire qu'on s'est pas mal anglo-saxonisé. On a ouvert quelques brèches, notamment dans le droit du travail. On a essayé d'harmoniser tout le monde, parce que je pense qu'il y a quand même des injustices flagrantes entre le privé et le public.
Sarkozy a réussi à faire ça ?
Oui, sans faire descendre la France dans la rue. Non, ça c'est utopique, mais j'aimerais. Ça serait que tout le monde en aurait pris conscience. Si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des rares pays où, je dis souvent ça, bon, c'est un raccourci, où on parle encore de lutte des classes. Je dirais qu'aujourd'hui, avant, il y avait le patronat, les salariés et les syndicats. Je dirais qu'il y a une composante dont on parle pas souvent, qui est la composante du marché. Et après, comment en tenir compte?
On en tient compte, le patronat en tient compte. Oui, mais tous les jours du marché.
Oui, mais on en tient compte, mais le droit social n'en tient pas compte. Si vous voulez, aujourd'hui, le boulot de chef d'entreprise, dans mon cas, aujourd'hui, on a à peu près 70 salariés. Je dirige une société de location de voitures avec mon frère et on a à peu près 1000 véhicules et 70 personnes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les contraintes que l'on a, il y a certains moments, je serais tenté de dire qu'on passe trop de temps à gérer ces contraintes, qui sont parfois pas que des contraintes de droit social, qui sont d'autres contraintes, et qu'on ne fait plus notre métier de chef d'entreprise, de dirigeant, qui est là notre valeur ajoutée. Par exemple, il y a une contrainte que tout le monde trouve injuste, mais sur laquelle on ne fait rien, qui est la taxe professionnelle. C'est un impôt qui est très injuste, parce qu'il touche l'outil de production. Pour vous donner un ordre d'idée, on a payé, je crois, aux alentours de 160-70 000 euros de taxes professionnelles pour un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Il y a aujourd'hui un des gros problèmes vous me parlez d'autres contraintes, les 35 heures aujourd'hui. Le gros problème des 35 heures, c'est un changement d'état d'esprit. Ce qu'il y a de catastrophique aujourd'hui, c'est que les jeunes ne viennent plus pour accomplir une mission, mais viennent pour faire 35 heures. Et donc, si vous voulez, on a perdu cette culture du travail. Je veux pas reprendre des discours d'un candidat ou quel qu'il soit, mais ça, c'est catastrophique, par contre.
Alors, maintenant, on va en Gironde, à Noyant. Et avec Antoine Chaot, on rencontre Patrick. Patrick est à côté de sa vache Marguerite.
Moi, j'ai 68 ans. Je suis né paysan. Alors, avec l'Europe maintenant, il faut des normes. Les normes. Tu parles des normes, toi. Qu'est-ce que c'est les normes? Eh bien, les normes, ça tue tout, les normes. Tout. Tous les paysans sont tués par les normes. Voilà, les normes européennes. Alors, c'est comme si on n'avait pas de président de la République. C'est l'Europe qui commande, Bruxelles. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a le droit de rien dire, en France. Alors, on est attributaire de tout le monde. Alors, ça va plus. On ne relevera jamais une situation comme ça. Depuis 25 ans, les jeunes, on leur a dit, oh, il faut aller aux écoles jusqu'à 18 ans. Eh bien, on les a amenés à l'école jusqu'à 18 ans. À 18 ans, il y en a, ils ne savaient pas lire ni écrire encore. Ils n'avaient pas de métier, ils n'avaient rien du tout. Ça fait quoi, des délinquants? Et voilà. Je te dis, c'est la faute du gouvernement.
Et vous êtes plutôt de gauche ou de droite?
Ah, moi, je suis... je n'ai pas ni de gauche ni de droite. Je suis... Moi, sans étiquette politique. Et comment elle s'appelle la vache alors? Oui, elle s'appelle Marguerite la vache. Et je traite les vaches à la main, j'ai pas de machine. Et voilà. On laisse tout faire nous ici en France alors. Ou on peut rien faire, je ne sais rien, on peut peut-être rien faire. Eh, dis donc, il y a tout qui va pas. Tous ces gens qui tuent ces filles, c'est pareil, on aurait laissé la peine de mort. Quand même, pour ces gens-là, ça serait quand même pas mal, il me semblait. Dis donc, parce que quand même, merde, tout est comme ça. Tout, on laisse tout faire. Il faut quelqu'un de... qui tape le point fort sur la table, là, maintenant. Hein. Attention, Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui se rendent compte quand même qu'on est mort du ouf, frère. Oui, oui, il faut quelqu'un de d'assez énergique là. Et qui se défende.
C'est Sarkozy, ça.
Ah ben, on n'a pas le choix. Je crois que c'est à part lui. Il faut quelqu'un de... Parce que je pense que lui, il va remettre beaucoup de choses en place. Ah oui, oui.
Mais lui, il se rapproche un peu de Le Pen quand même, non?
Eh bien, mais qu'est-ce que tu veux? Le Pen, il a de bonnes... Il a de bonnes initiatives, Le Pen. Il ne faut pas critiquer tout ce qui... S'il veut faire ce qu'il dit, lui aussi. C'est vrai, mais bon... Tu sais, c'est pas évident, Attends, c'est pas évident.
C'est tout qui va pas, c'est quand qu'on va où, on connaît la chanson depuis longtemps, mais dans le même village de Noyant, une autre rencontre avec Bruno, autre son de cloche.
Qu'est-ce qui te prend la tête?
Que le sang, il soit mouillé.
Mais il a pas arrêté de pleuvoir, là.
Ben non, je peux pas rentrer avec le tracteur, ce qui fait que je prends du retard pour semer les carottes.
Et tu penses que tu vas pouvoir planter les carottes avant le premier tour?
Là, c'est à gauche. Ah ouais, parce qu'à mon avis, après, je pourrais plus en planter. Ça sera interdit de planter des carottes. En fait, j'ai tort de dire ça parce que c'est José qui va passer.
Donc toi, tu votes José. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un peu ton opinion sur les candidats.
Ah ben, tu vois,
en tant qu'agriculteur.
Tu l'as rapidement, là. Voilà. Mais je sais pas parce que je suis agriculteur que je vote José. Je serais pas agriculteur, je serais José quand même. Je pense qu'à travers ce qu'il défend, c'est pas seulement l'agriculture, c'est la liberté des hommes, des peuples, des individus. C'est des liens de solidarité, c'est redécouvrir ce que c'est que la fraternité, et ça c'est tout sauf le capitalisme, quoi. Et donc on n'arrête pas de nous seriner que c'est utopique, mais ce qui est utopique c'est de vivre comme on vit aujourd'hui, quoi, avec toutes les violences psychologiques, symboliques, physiques qui se déroulent, la pollution, je vois pas comment on peut continuer comme ça. Ça c'est vraiment utopique. Donc pour être réaliste, il faut voter José. Maintenant je connais des gens qui votent, comment dirais-je. J'allais dire FNS qui vote Sarko, mais c'est un autre monde, quoi.
Donc le monde paysan, il serait toujours Versaillais ou pas, aujourd'hui?
De toute façon, il reste tellement peu de paysans que il remplirait pas la cour de Versailles.
Alors, on a encore beaucoup, évidemment, de croquis, de portraits, mais leur tourne. On va finir avec cette jeune femme qui a une quarantaine d'années et qui est policière en Seine-Saint-Denis.
Le problème, c'est qu'on nous en demande, on nous en demande, on nous en demande, et à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. À la limite, le chiffre, c'est un petit peu bizarre pour un service public. Le policier, il est avant tout au service de la population, et donc la rentabilité, c'est un petit peu bizarre dans notre métier. Là, avec Sarkozy ministre, on a vu que le volet répressif. Et notre métier, c'est la balance entre la prévention et la répression. Et trop de répression, ça nuit un petit peu au travail du policier, parce que on a pété complètement les liens entre la population et la jeunesse. Et la moindre intervention, c'est des situations rouges, c'est on veut pas monter son titre de transport. On est en colère parce que on a l'impression qu'on stigmatise tous les problèmes de la société, quoi. Mais les lois existent et on le fait pas appliquer. J'ai 41 ans.
41 ans, ça fait combien de temps que vous êtes dans la police?
89. 16-17 ans, je crois, un truc comme ça. J'aime mon métier, mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on n'ose plus dire qu'on est policier, quoi. On conseille même à notre enfant de pas le dire, parce que la population, même si c'était un petit peu le cas avant, ah, c'est pas bien, policier, le bras armé de Sarkozy, quoi. Je suis fille de flic, donc déjà, mon père me disait, tu n'es pas policier, tu n'es fonctionnaire. Donc, bon, effectivement, moi, je l'écoutais pas, je m'étais policier, parce que j'étais fière de mon père, et quand on est enfant et fille de policier, on n'y peut rien. Il faut tout pour faire un monde, hein. À la limite, une société idéale, ça serait peut-être une société sans police. Mais alors là, je sais pas si on va y arriver, hein. Puis je pense pas qu'on y prend le pas. Je vais voter certainement, très certainement, Ségolène Royal. Bah, je vais voter utile, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Si je ne choisissais pas de voter utile pour pas revivre 2002, j'aurais plutôt voté Besancenot, quoi, parce que bah, c'était des idées qui sont les miennes, quoi.
Voilà, nos vies valent mieux que leur profit, c'est ce qu'on dit dans la police. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique l'émission La Basse, et j'y suis. Merci à toute l'équipe, Pascal Pascarillo, Antoine Chao, François Ruffin, Olivier Gesbert, Yann Rio, qui ont réalisé cette émission, avec Yann Chouquet et Coyenne Guyenne, assisté de Charlotte Perry. Christophe Imbert attend avec impatience vos messages au cours de ce week-end au 01 56 40 37 37. Notez bien, 01 56 40 37 37. En principe, ça devrait chauffer. Réclame.